On est dans Mishnah Brura, on est dans Siman la maîtresse, Seif Yud, page Koufé Aleph. Donc on est toujours dans la lachot de Tfilin, et là on est dans le chapitre Din Miem Achayavim Bitfilin Zavturim, qui est exempté de Tfilin et qui en a l'obligation de les mettre. Donc on a déjà eu l'occasion d'avoir plusieurs cas, comme par exemple on a appris la semaine dernière que celui qui n'arrive pas à avoir la tête tranquille, qui n'arrive pas à se calmer en sous aucun cas, non seulement qu'il n'a pas besoin de mettre des tefilines, mais il n'a pas le droit de mettre des tefilines. Toi, par exemple, quelqu'un qui a perdu beaucoup d'argent et qui n'arrive pas à se tranquilliser, il n'a pas le droit de mettre des tefilines. Okay. Là, maintenant, on est dans Alaha Yud. Vous avez Alaha Yud, troisième ligne, page Koufel.
Je veux dire qu'un drogué...
Un drogué, il ne peut pas le mettre.
Il ne peut pas le mettre.
Akoré Batora. Ça peut être quelqu'un qui est drogué par les médicaments.
Oui.
Akoré Batora. Celui qui est en train de lire dans la Torah. Alors, de quelle Torah on parle ici? D'accord? C'est-à-dire, quand on est de la Torah, c'est pas Torah chez BLP, c'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui est en train d'étudier la Gemara. On parle de quelqu'un qui est en train de lire la Torah, c'est-à-dire Torah chez Birtav, dans le Sefer Torah. Alors, dans ce cas-là, Patur Me'anachat Filin Kolayon. Une personne qui étudie la Torah, c'est-à-dire qui est en train de lire la Torah, il est quitte de mettre les Filin toute la journée, Zulat, Bishat, Kriat Shema ou Tfila, sauf au moment où il fait le Kriyat Shema et la Amida. Ça veut dire qu'une personne comme ça, une personne qui étudie toute la journée à étudier, il n'est pas obligé de faire la Tfila avec les Tfilines. Enfin bon, techniquement, aujourd'hui, ça ne se fait plus, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de gens qui sont vraiment occupés toute la journée avec la Torah à ce point-là. Mais techniquement, si une personne est occupée toute la journée avec la Torah, il peut, par exemple, faire la Tfila par cœur en venant de chez lui. Dès qu'il arrive à la synagogue, il met les Tfilines, 10 minutes, fait Kriyat Shema, Amida, il les enlève et il continue son étude. D'accord ? C'est permis les Khatrila. Ça, c'est un premier point. Encore un autre point, il dit ici, Lo yachalot tfilin du fine rabo. On n'a pas le droit d'enlever cette tfiline du fine rabo devant son maître. Qu'est-ce qu'on appelle son maître? Dit le Mishnah Brura. Son maître, c'est la personne, d'accord, qui lui a enseigné Rov Chochmato, la majorité de sa sagesse. La majorité de ses connaissances. On n'a pas le droit, par respect, d'enlever les tfilines devant son maître. Pourquoi? Parce que les tfilines, c'est considéré un vêtement. Et enlever les tfilines, c'est considéré comme si on se déshabille. Et c'est pas respectueux, ça ne se fait pas. D'ailleurs, on verra après aussi, on le fait pas devant un Sefer Torah.
Ça tient toujours aujourd'hui?
D'accord,
ça
toujours.
Les gens n'ont pas ce sentiment.
Ah, 100%, toujours quand on est devant le rabbi, j'aimerais en enlever.
On se met toujours dans un coin, toujours.
Ah bien sûr, on fait attention à ça. La même chose devant un Sefer Torah. Je vois des fois des gens, je le dis quand je vois.
Ils sont pressés.
On n'enlève jamais les tfilines devant un Sefer Torah. Toujours, on va dans un coin. C'est surtout le tfilin de la tête, parce que le tfilin de la tête est considéré comme un vêtement. Donc on va dans un coin, on enlève le tfilin de la tête, après le reste, on peut continuer. Mais on n'enlève pas les tfilin devant un Sefer Torah. Le Sefer Torah, c'est la même importance que le Rav. Donc, lo yachalot tfilin bifne rabo, on n'enlève pas les tfilin devant son maître, et là seulement, ifne les tzad acher. Ifne les tzad acher, ça veut dire qu'il doit aller dans un autre coin. Pourquoi? Pour les enlever. Mipne et mato, pour avoir la crainte du rav. Parce que c'est un manque de respect d'enlever les tfilines devant le rav, c'est comme si je me déshabille devant la personne. Néanmoins, le prix méga du midi, si on n'a vraiment pas vraiment le choix, c'est par exemple une synagogue où il y a beaucoup de monde et que je ne peux pas t'amuser à aller dans un autre coin, il n'y a pas d'autre coin. Alors, en ce cas-là, on peut se tourner un petit peu, pour montrer que je le fais pas devant toi, quoi. Bon, je tourne un peu ma tête, et là, il n'y a pas de problème.
Sur les couverts avec le talit.
D'accord?
Bon, rien?
Non, devant le rave, c'est écrit. Devant le rave.
Sur les couverts avec le talit. C'est caché? On peut même regarder la télé.
Sur un coin, c'est pas écrit. Ça, c'est un premier point. D'accord? Donc, via chalot, chez l'obéfanav, donc, pour enlever les tfilines, chez l'obéfanav, pas devant le rave. Maintenant, à la chayutbet. Dernière ligne. Ayat Sarir les tfilines ou mezuzah. Si une personne avait besoin de tfilines et de mezuzah, en yado maseget iknot shneem. Si maintenant une personne doit acheter des tfilines et des mezuzot, mais malheureusement il est à sec, il n'a pas assez d'argent pour acheter les deux. Lequel passe en priorité?
Ah.
Alors, ça c'est une question qui est très difficile. Pourquoi c'est une colle?
Mezuzah c'est beaucoup moins cher.
On va réfléchir. Non mais pourquoi c'est une question difficile? Réfléchissons ensemble, pourquoi c'est une question difficile?
C'est deux mitzvot déjà, de Raïta.
Oui, d'abord, quelle mitzvah est plus fréquente?
La mezuza, on l'a pas d'une seule fois, mais on passe tous les jours devant.
Très bien. Et les tefillin, on peut les emprunter?
Tout à fait.
La mezuza ne peut pas.
La mezuza ne peut pas l'emprunter?
Ouais.
Donc, qu'est-ce qu'elle dit la logique? Alors, on dit pas qu'il ne peut pas les emprunter, on dit qu'il n'a pas de quoi acheter les deux.
Les tefilines, on les met sur soi, c'est même pas sur la mezouza.
La logique, elle dit, achète la mezouza et les tefilines, tu emprunteras, et quand tu auras, tu achèteras les tiens. C'est quoi le din? C'est quoi le din? Qu'est-ce qu'il dit? Tefilim kodmim, les tefilines, ils passent avant. Pourquoi? C'est pas logique.
Avant
une mezouza. Bien que la mezouza, je vais l'utiliser plus fréquemment, et que je peux pas l'emprunter. Je peux pas emprunter mezouza. Parce que si je vais emprunter à qui? Une autre personne, il l'a chez lui déjà.
Et la mezouza, ça ne concerne que. Enfin, la tefilin, ça ne te concerne que toi, mais la mezouza, ça te concerne.
En plus, alors c'est quoi, c'est sûr, comment ça se fait? Alors le Mishnah Berurah ramène deux raisons. Première raison, il dit parce que le tefilin est ce qu'on appelle une mitzvah chez Begoufo. C'est-à-dire une mitzvah qui est liée au corps, qui est sur le corps de la personne. Et une mitzvah qui est liée au corps de la personne passe en priorité avant les autres mitzvot. C'est un premier point. Deuxième élément, nous dit le Mishnah Berurah, il nous dit parce que le tefilin, c'est une mitzvah, d'accord, qui est plus la gdusha des tefilines est plus grande que la gdusha de la mezouza. Il y a une plus grande gdusha sur les tefilines que sur la mezouza. Quand même dans le dîner de l'écriture, et même par rapport à la gdusha. Par exemple, Dieu préserve une tefiline qui tombe et une mezouza qui tombe, c'est pas la même chose. Donc, puisque c'est une plus grande gdusha, bien que j'aurais pu me débrouiller en l'empruntant, et bien que bon, finalement, la mezouza, je vais l'utiliser plus souvent et ça concerne ma famille, etc., c'est quand même une mitzvah qui passe avant. Donc, je l'achète. J'achète d'abord les tefilines avant la mezouza. Alors, néanmoins, le Magan Avraham dit, et ça c'est pas écrit en Shulchan Aruch, c'est pour ça que c'est important, le Magan Avraham dit que si une personne peut emprunter, dans ce cas-là,
la mezouza passe avant.
Il peut emprunter de l'argent?
Non, il peut emprunter des tefilines. Dans ce cas-là,
il y a des pères à la synagogue.
Voilà, dans ce cas-là, ça passe avant. Ça, a priori, on le comprend pas du...
Ouais, c'est si on n'a pas le choix.
On peut l'emprunter.
Si on n'a pas le choix,
c'est Magan Avraham.
Non. Pour l'acquérir.
Mais je vous en personne, quand tu empruntes, parce que les tefilines, la personne, il l'a mis, une fois qu'il l'a mis, après,
il... Tu peux faire.
D'accord?
Tu la prêtes, tu dis, voilà, tu peux pas la payer maintenant.
Si, bien sûr, si je la prête, il n'y a pas de problème.
La loue.
Menoudé. Et la loue, ah, c'est pas mal, ça, comme idée. Louer les mezouzotes. Au jour, comme les assurances.
Longue durée.
Ouais.
Location longue durée.
Excellent. Louer votre tefilin.
Leasing.
Assez faire ça à pour pétard, louer.
Location longue durée, LLD, hein.
Ouais. Non, sans la vente.
C'est bon, ça.
Révisé, prêt à servir.
Il y a un problème, on vous la répare dans les 24 heures.
Assurance incluse, ouais, assurance.
Nous, on veut louer, on veut faire du pognon.
Très très bon, ça, comme idée.
Avec option d'achat. Donc, à la fin, ah, on l'a vendu trois fois le prix. C'est excellent.
Vérification, d'accord. Garantie.
Ouais, entretien inclus et tout.
Kilométrage. Mais l'idée, pause incluse. Menudé ou Metzora?
C'est pas
demain,
l'été.
Tu l'as déposé. Alors. Ah si?
Régulièrement.
Je vois,
chaque année. Pas la majorité des gens.
La majorité des gens ne pensent pas.
Les gens, ils pensent plus aux tefilines que aux autres.
Nom de domaine, tefilocation.
C'est vrai.
Il a déjà agréé. Livré en 24 heures.
Les abonnements, pour ceux qui louent souvent et tout. Aïe, aïe, aïe.
Les points de fidélité, ça y est, il est parti. Il a déjà... Menudé ou Metzora? Alors, une personne qui est menudé, ça veut dire qui est en nidouille, c'est-à-dire qui est mis en quarantaine. Un exemple d'une personne qui est mise en quarantaine.
En exil ou en...
D'accord, en quarantaine. D'accord. Par exemple, une personne que le Bedin a convoqué plusieurs fois qui ne veut pas venir. Qui ne veut pas venir exprès, quoi. Hein. Il dit, je viens pas, je n'ai rien à faire. Donc le Bedin va le prévenir plusieurs fois. Et... Après, s'il écoute pas, on le mettra en quarantaine. C'est de la chose particulière, une personne qui est en quarantaine, ça veut dire que, ça veut dire qu'on n'a pas le droit, par exemple, on n'a pas le droit de s'asseoir dans ses quatre coudées. Dans ses deux mètres autour de lui, on n'a pas le droit de s'asseoir.
Ah oui,
après, c'est grave, quoi. Nidouille, c'est très grave. Pire que Rerem. Nidouille, c'est très grave. Donc, menudé, une personne qui est mise en quarantaine, ou Metzora, ainsi qu'un lépreux, assourim la niar tefilin, ils n'ont pas le droit de mettre les tefilines. Alors le ici Raman dans Mishnah Berurah, il dit qu'il y en a qui disent le contraire. Enfin, il y en a qui disent le contraire. Il y en a qui disent qu'ils doivent mettre des tefilines. Donc puisqu'on a un safek, donc a priori la majorité des poskim s'accordent pour dire que on les met sans bracha. Bien qu'il y en a qui disent qu'on doit les mettre avec bracha, mais a priori la majorité des poskim s'accordent pour dire qu'on les met sans bracha. Bon, hein, que ces deux cas chas v'shalom ne nous arrivent à aucun des deux, ni J'arrive à aucun de nous, ni douille, ni lépreux. Ok. Alors maintenant, on passe maintenant au Siman Lamed Tet. Pourquoi on met pas les tefilines? Je sais pas.
Parce que je pense, moi, que
c'est faire acte de cohésion avec le clan Israël. Il a été jeté.
Il ramène du chouanon. Il y a un commentaire qui s'appelle Chiarek Neset Agdola. Il explique. Il dit qu'il y a un safek dans la Gemara, il y a un doute dans la Gemara. Est-ce qu'une personne qui est mise en quarantaine est chayav dans les dinim de Avelout, dans les dinim de deuil? D'accord? Donc il y a un safek. Est-ce qu'une personne qui est mise en quarantaine doit faire tous les dinim de deuil? Ça veut dire, est-ce qu'il doit se comporter comme si qu'il était en deuil? Et il y a le même safek, d'accord, pour le metzora, pour le lépreux. Le fait que la Torah l'a mis de côté, est-ce qu'il doit avoir les minagim de deuil? Donc s'il a les minagim de deuil, d'accord, un des minagim de deuil, c'est justement donc de ne pas mettre le tefillin. Voilà.
Ouais, mais là c'est 40 jours.
Ah non, ça dépend. Hein. Ouais, ça peut être prolongé. Je crois qu'au début c'est 7 jours, après ça peut être prolongé en un mois. Enfin, il y a tout un système, hein. c'est compliqué. Hein. Il faut un bedding qui se rassemble et il doit faire. C'est très compliqué.
C'est d'accord, ça?
C'est sûr.
Ouais. Les mettre au noir.
Oui, on l'a dit, oui. Il y en a qui disent qu'il faut mettre en bracha. Non, il y en a qui disent qu'il faut les mettre avec bracha. Puisqu'il y en a qui disent qu'il faut les mettre avec bracha, le premier gars dit, mais il a tranché et qu'on met sans bracha.
On peut être mis en quarantaine, par exemple.
Ah ben voilà, quand par exemple quelqu'un refuse de venir au Beit Din.
Un point divin.
Bien sûr.
Qui ne veut pas donner un gage.
Mais bon, le Beit Din n'utilise pratiquement jamais ces options. C'est très grave, hein. Une personne qui est en idouille, ça veut dire qu'on dit s'il est en idouille par le Beit Din d'en bas, c'est-à-dire qu'il sera en idouille ici par le Beit Din d'en haut, c'est très très grave. C'est des choses que le Beit Din, c'est. Vraiment, utilise ça en dernier recours. C'est très très grave. Pour la Neshama, c'est très très grave. Alors, maintenant, on passe à Siman Lamed Tet. Miyam Akshirim Lirtov Tfilin Veliknot Mehem. Qui est kasher pour écrire des Tfilin, ainsi que pour acheter? On va voir qu'on ne peut pas acheter des Tfilin à n'importe qui. Il y a un concept de confiance. Tfilin, Shektavan, Eved, Oisha. Des Tfilin qui ont été écrits par un Eved, donc par un esclave, Oisha, ou par une femme. Donc en fait, les Mishnah Berurah, c'est pas seulement des tefillin, c'est également valable pour un Sefer Torah, pour des mezuzot. Seulement, bon, on dit Chot Tefillin, parce que comme j'ai expliqué la dernière fois, là maintenant, le Shulchan Aruch a été écrit dans l'ordre du lever. D'accord, donc d'abord on s'est levé, après on s'est lavé les mains, après on s'habille, après on s'est lavé les mains, après on a mis les tefillin, après on a mis les tefillin, après on passera à la tefillin. Donc c'est pour ça que la majorité des halakhot de Sofrout, on les a mis autour des tefillin. Et bon, en vérité, c'est des halakhot qui sont pratiquement les mêmes pour Mezouza et Sefer Torah. Enfin, par exemple, tous les dinim de l'écriture des Tfilin sont dans le Siman Lamed Bet. Le Siman Lamed Bet, tous les dinim que les Sofrim étudient, c'est dans le Siman Lamed Bet, mais c'est pas que pour les Tfilin. Pour Mezouza et Sefer Torah. Pour la majorité des choses. Donc, Tfilin, des Tfilin, ou, comme on a dit, un Sefer Torah et une Mezouza. Shektavan, qui a écrit Eved, un esclave. Oisha, ou une femme. Okatan, ou un enfant. Enfin, un enfant, ça veut dire quoi un enfant? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a moins de 13 ans. Quelqu'un qui a moins de 13 ans, ce qu'on appelle, donc c'est pas seulement l'âge qu'il faut, il faut ce qu'on appelle également les simanim, d'accord? Il y a les simanim, de la même manière que chez une fille, puberté. Il y a des simanim de puberté, chez un garçon aussi, il y a des signes de puberté. D'accord? Des signes de puberté. Bon, peu importe comment on voit, il y a plusieurs signes de puberté. En tout cas, afilu igal echinur, même si c'est un enfant qui est arrivé à un âge d'être éduqué. C'est-à-dire que c'est un enfant qui est majeur, enfin pas majeur, mais quelqu'un qui comprend ce qu'il fait, qui sait bien écrire. Oh, kuti! Ou bien, des tefillin qui ont été écrits par un kuti. Donc kuti, c'est un QT1, ils disent en français, c'est ça? Oh, moumar la vodat gilulim. Ou bien, une personne qui est moumar, ça veut dire qu'une personne, on sait, qui se révolte contre Akadosh Baruch Hu, mais il y a des gens ils peuvent se révolter contre Akadosh Baruch Hu, Dieu préserve. Pour d'autres avérantes, par exemple, quelqu'un, on sait, il transgresse le Shabbat de manière préméditée. Ça, c'est autre chose. Là, c'est une personne qui est moumar pour avodat gilulim. C'est-à-dire, on sait que c'est quelqu'un qui va à l'église. Enfin, il fait avodat zara. On sait. Ou bien, Moser les Anassim. Ou bien, une personne qui est Moser, ça veut dire qu'il va menacer des gens, il va dire, voilà, attention, si tu me donnes pas ce que j'ai envie, je vais donner ton nom, les Anassim. Anassim, Anas, d'accord? C'est un maître chanteur, c'est-à-dire quelqu'un qui est la mafia, voilà, aujourd'hui c'est l'équivalent de la mafia. D'accord? La mafia, il dit, attention, si tu ne laisses pas tranquille, je vais donner ton nom à la mafia, ils vont s'occuper de toi. Et il donne le nom. Donc les gens comme ça, on les met de côté.
C'est du mèche.
Un délateur.
Alors voilà, je pense l'équivalent de Anna, c'est la mafia. C'est des gens qui vont venir et qui vont dire bon.
Il y avait donc déjà des lieux à l'époque.
Ah oui, bien sûr. Si vous voulez revoir votre fils, ah oui. Soulim.
Tu aimes ta famille.
Tu tiens à tous tes doigts.
Je vais récupérer ce doigt.
Il veut bien, oui. Alors, dans tous ces cas. Alors, pourquoi on a amené le cas de Moumar, la Vodat Giloulim? La Vodat Giloulim, ça veut dire un Moumar. La Vodat Giloulim, ça veut dire pour la Vodat Zara. Vous avez remarqué qu'ici, pour la Vodat Zara, il dit Avodat Giloulim. Vous savez, c'est quoi Giloulim en hébreu? C'est les excréments. Le service des excréments. On les appelle comme ça. D'accord? C'est même pas Avodat Kochavim. Avodat Kochavim, c'est ceux qui servent les étoiles. Bon. D'accord? Alors, on les appelle Avodat Giloulim, ceux qui servent les excréments. Donc, une personne qui est Moumar pour ça, ça veut dire qu'une personne, on sait qu'il fait ce style, il fait sa lavera d'Avodazara. Pour ça, il est considéré comme si qu'il est moumar, le chol la Torah kula, c'est-à-dire comme si qu'il rejette toute la Torah, comme si qu'il dénigre toute la Torah. Et donc, tous ces cas-là, ces cas de figure qu'on a dit, d'accord, ça ne veut pas dire qu'il faut les comparer, hein, attention, hein, ça ne veut pas dire qu'une femme, c'est bon. Ouais. Mais dans tous ces cas de figure, psoulim, c'est pas soul, les tfilim ne sont pas cachers. Pourquoi? Comment ça fait qu'ils ne sont pas soul? Il explique ici. Alors, un point important peut-être avant d'avancer, c'est quand on dit un moumar, la voda de kiloulim, quand on dit une personne qui est moumar pour Avodazara, il y a plusieurs catégories de moumar. Il y a ce qu'on appelle un moumar les achis et moumar les teavon. Moumar les teavon, ça c'est la majorité des cas, c'est une personne qui fait une avéra par appétit. Par exemple, quelqu'un qui transgresse le Shabbat, il ne fait pas pour embêter Dieu. Il fait parce que bon, c'est un goinfre, il a envie de profiter. Alors ça, dans la lacha, c'est moins grave. Ça, dans la lacha, c'est moins grave qu'un moumar les achis, que quelqu'un qui fait pour embêter Dieu. Alors là, le Mishnah Berurah, il ramène, il dit que pour quelqu'un qui fait Avodazara, c'est même si une personne il fait par plaisir. Quelqu'un Dieu préserve, il a un plaisir d'aller à l'église.
De servir. D'accord. Il a envie
de servir. Dieu préserve Avodazara. Et même s'il a fait une fois, il est considéré moumar et une personne comme ça, cette filine, ils sont plus cachés. On dit pas que plus partie peuple juif, mais cette filine ne sont plus cachés. Pourquoi est-ce qu'on souligne? Mishum dirti, parce que c'est écrit Ukshartam Urtaftam. D'accord? C'est écrit Urshartam Urtaftam. Ça veut dire quoi? Où c'est écrit Urshartam Urtaftam? Dans le schéma.
Dans le schéma, oui.
Oui, mais comment c'est écrit?
C'est pour les...
C'est écrit Ukshartam lo tayedera, vayu lo tafat de denecha. Quand on parlait de filine, on dit tu les attacheras. Et juste après, qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit Urtaftam et tu les écriras al mezuzot betachov visharecha. La question qu'on se pose, c'est ça veut dire quoi quand tu me dis que tu attacheras les tefilines et tu écriras les mezuzot? Les tefilines aussi, il faut les écrire. Alors de là, les chachamim ont compris la chose suivante. De là, les chachamim ont compris que kolmi she'eino bikshira, que toute personne qui n'a pas l'obligation d'attacher les tefilines, oh eino maminba, ou bien il en a l'obligation, mais il n'y croit pas, eino biktiva, il n'a pas le droit de les écrire. Vous avez compris? Pour se dire, okshartam, urtaftam. Seulement une personne qui doit attacher les tefilines, ou bien qui y croit au moins, seulement une personne comme ça peut, urtaftam, seulement une personne comme ça peut les écrire. Mais kol misheno bikshira, eno birtiva, toute personne qui n'a pas l'obligation de les attacher n'a pas l'obligation d'écrire. Donc, une femme, par exemple, on avait dit, vous rappelez, on a dit la femme, elle peut mettre les tefilines, mais elle n'a pas l'obligation. Le katan aussi. Bien qu'on a dit que Midera Banan, on commence à le mettre quelques jours, quelques semaines, quelques mois avant par Chinour, mais il n'a pas l'obligation. Donc, puisqu'il n'a pas l'obligation, donc, d'accord, il ne peut pas écrire. Maintenant, il y a une question intéressante. Pardon?
Pourquoi vous dites obligation? Comment, d'après le verset, vous savez qu'il y a une obligation et que ce n'est pas...
Alors, Ukshartam, ça veut dire deux choses. Le Shurano a compris comme ça. Ukshartam, ça veut dire celui qui doit les attacher et celui qui y croit. D'accord? Comme ça. Parce que c'est un ordre, c'est une injonction, Ukshartam. Tu devras le faire. Alors la femme ne doit pas le faire. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas l'obligation de le faire. Maintenant, il y a une question intéressante. Il y a une question intéressante qui est posée dans le bureau Alaha. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on a un enfant qui est, on va dire, allez, 6 mois avant la bar mitzvah, et il a envie de s'éduquer à mettre des tefilines. Il sait écrire des tefilines. Il a envie d'écrire ses propres tefilines.
Il a des signes de puberté.
D'accord? Non, il n'a pas de signes de puberté.
Pour les 6 mois?
Pour les 6 mois. Il a envie d'écrire, non.
Mais c'est ses tefilines, donc. Pas ceux d'un autre.
Ah oui, c'est ses tefilines. Alors, est-ce qu'il a le droit?
Je pense que ça vaut le coup.
Hein?
Moi, je le ferai, moi. J'ai des gosses.
J'ai 12 ans et
qu'est-ce qu'on fait?
Je vais écrire mes tefilines.
Bon, mais s'il me faut 6 mois pour les finir.
Deux jours de ma bar mitzvah, ça y est.
Oui, mais encore une fois, là le problème, c'est que le problème, c'est qu'il a l'obligation de midrabanan. Il a l'obligation de midrabanan et il le fait pour soi-même. D'accord ? Alors a priori, du bureau à l'achat, on comprend. Bon, a priori, on comprend que même dans ce cas-là, il n'y a pas le droit. Puisqu'on ne peut pas comparer une mitzvah qu'on fait dans une obligation midrabanan qu'une mitzvah qu'on fait d'une obligation minatora. Avant la bar mitzvah, c'est midrabanan. Après la bar mitzvah, c'est minatora. Donc on ne peut pas comparer les deux. Et donc, les tefillines doivent être écrits par quelqu'un qui en a l'obligation minatora et quelqu'un qui y croit.
Un converti, pas de problème.
Pas de problème, bien sûr, pas de problème. Kol shepasu le katvan, on continue dans la alachabet. Kol shepasu, pas de problème, vous allez mettre.
Non, il peut écrire.
Quoi, il peut écrire, pourquoi il pourrait pas
écrire? Il peut écrire des tefillines et...
S'il doit les mettre, il peut les écrire. Oui.
Juste encore une question. Vous avez donné l'exemple de la femme là qui n'est pas d'obligation. Ouais. Par exemple,
comme tutoyer, hein, c'est plus simple.
Celui qui a fait la Vodazara.
Oui.
Il a aussi l'obligation.
Oui, c'est ce qu'on a dit. On a dit soit que Ukshartam, ça veut dire qu'il faut soit il faut et d'abord avoir l'obligation de les mettre, donc devoir les mettre et y croire. C'est vrai que je crois qu'on a dit oh et non Mamimba.
Puisqu'il une fois, ça suffit pour.
On considère que tant qu'il n'a pas fait de Tshuva. Et c'est très compliqué, hein, faire teshuva de votre mouvement, c'est-à-dire qu'il faut que le Bedin arrive à prouver qu'une fois il est arrivé dans un même degré de tentation que ce qu'il avait la première fois, et il a tenu. Il faut que ce soit validé par un Bedin. C'est très compliqué, un mouvement, c'est Dieu préserve. Parce que quand c'est mouvement pour une autre Avera, c'est moins compliqué. Alors, quelqu'un qui a transgressé une fois le Shabbat, même de manière préméditée, c'est moins compliqué. Mais quelqu'un qui a été mouvement pour Avodazara, il est considéré comme s'il a rejeté toute la Torah.
Oui.
Très très spécial, Avodazara. Bon. Aujourd'hui, bah, au Hachem, on a plus Yetzarara. Mais à l'époque de la Gemara, les gens, ils avaient le Yetzarara d'Avodazara. Des gens qui avaient Yetzarara d'Avodazara. C'était comme le Yetzarara des femmes. Kol shepasul le katvan, pasul bechol tikkun atiyatam. Toute personne qui est inapte pour les écrire, d'accord? Bon, parce qu'on a donné des restrictions particulières, est inapte également, il est pasul également, bechol tikkun atiyatam, ça veut dire pour tout ce qui est arranger les téphilines. Alors, qu'est-ce que j'appelle arranger les téphilines? D'accord? Arranger les téphilines, ça veut dire, par exemple, même coudre les téphilines. Vous savez que c'est cousu. Le boîtier est cousu. Ça veut dire également recouvrir les bâtiments. Vous savez, c'est recouvert avec du noir. Ou bien, même faire le chine.
Le dessin?
Oui.
Le nœud?
Le chine, bah oui. Le chine, wow. On le fait. Ah oui. Non, pas le nœud.
Ah.
Le chine qui est sur le téphiline de la tête. Le roche.
Ah oui, oui.
D'accord, la forme du chine. Tout ça s'appelle asiatam, ça s'appelle faire les téphilines. Ou bien sûr, corriger une lettre. D'accord? Mais corriger une lettre dans quel cas? D'accord? Corriger une lettre dans un cas que la lettre était pas soul, d'accord? Enfin, était presque pas soul, et que grâce à ça, il va devenir quelque chose comme si qu'il a fait les téphilines. D'accord? Mais sinon, si c'est juste réparer un tag, ça n'y a pas de problème, parce que les téphilines étaient déjà cachères. Ça s'appelle pas asiatam. Ça ne veut pas faire les téphilines.
Mais
a priori, il n'y a pas de problème. Ça n'y a pas de problème. Est-ce qu'il a rien fait? Il vérifie pour une autre personne qui devrait les arranger s'il faut les arranger. Mais par exemple, le tannage, travailler le parchemin, ça il n'y a pas de problème, il peut le faire. Pourquoi il peut le faire? Parce que ça ne rentre pas dans le cadre de Asiatan. Ça ne rentre pas dans le cadre de la fabrication des téphilines. Fabrication des téphilines, c'est une fois qu'on a déjà le parchemin, c'est écrire et préparer le boîtier. Ça s'appelle Asiatan. D'accord?
Et il est susceptible de mettre une peau de n'importe quoi.
De?
S'il tanne la peau, et s'il nous met une peau de chazir.
C'est pas une question de confiance là, hein. Attention.
Confiance de quoi alors?
C'est pas une question de confiance. C'est une restriction que la Torah a mis. D'accord? Ça veut pas dire qu'on fait pas confiance aux femmes, chaz de shalom. C'est une restriction que la Torah a mis. Maintenant, continue. C'est une xerat takatouv, hein. Il n'y a pas de. Il y a certainement des femmes qui sont plus douées que les hommes et qui peuvent faire des filles encore plus jolies que les hommes. Il n'y a pas de... C'est Xerat HaKatuv, comme ça la Torah a dit. Celui qui doit les écrire doit être quelqu'un qui doit les mettre.
Si une femme, elle fait 99% des filles.
Ah, on ne peut pas.
Et qu'il y a un sofer qui arrive et qui le rend caché.
On n'a pas le droit du tout. Non, non, non. Pas le droit.
À part à l'écrire.
Assour. Ah si, atteinte, c'est assour.
Tu vois pourquoi je vous dis ça? Parce que...
Je vais vous dire à tel point ça va que dans Mishnah Berurah, il ramène, il dit que... Il y en a qui disent que même... gratter de la colle, vous savez, des fois quand on écrit, des fois on peut avoir de la colle qui s'est mise entre les lettres, juste gratter,
ouais.
D'accord, même ça, il y en a qui disent c'est interdit parce que ça rend les tefillines encore plus cachères. C'est très très particulier. C'est vraiment bon, c'est une xerat takatouf, c'est la Torah qui a décidé. Guerre chez Chazar les dato mechamat tira. Maintenant, un converti donc chez Chazar les dato qui est revenu à sa religion,
chez un culte.
Sukkara, son ancien culte. Mais pourquoi il l'a fait? Il l'a fait Mechamat Ira à cause de la crainte. Crainte de quoi? Il a eu peur qu'on le tue, des autorités. Bien que normalement, il aurait dû faire Mesirut Nefesh. Il aurait dû, mais il n'a pas fait Mesirut Nefesh, et malheureusement, il a repris ses anciennes habitudes. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce que le fait que Khazar les sourds, ça veut dire est-ce que le fait qu'il a repris ses anciennes habitudes, est-ce qu'on considère que rétroactivement ce qu'il a fait, ça vaut rien? Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben non, il est comme un juif qui est maran, un juif qui a été sous la contrainte. Mais est-ce qu'il prend plaisir à son retour à son ancien culte ou bien il vit sous la contrainte terrorisé?
Alors, est-ce qu'il est cachère ou pas cachère pour créer Tilly?
Oui.
Cachère.
Non, justement.
Alors, Shranaouri dit qu'il est caché à l'Estaf Tulin. Alors que s'il est revenu, pas par plaisir, mais par crainte, il est caché pour les rois d'écrire les Tulin. Néanmoins, sachez que le Magan Avraham, Magan Avraham c'est un avis de taille, Magan Avraham n'est pas d'accord avec ça. Magan Avraham il dit que même si il continue à accomplir les mitzvot en cachette, c'est-à-dire non seulement qu'il fait les mitzvot, il est même pas lâché, mais il continue à les faire en cachette, il dit que c'est un problème pour une personne comme ça d'écrire des tefillin. D'accord? Donc bon, il y a beaucoup qui sont d'accord avec le... Ah oui, il est plus dur, Donc, d'accord, ceci dit, c'est pour ça que aujourd'hui on fait attention à ça. Bon, je préserve qu'on n'arrive pas à ça. Merci beaucoup. Bon. Un autre cas. Non, on en prend encore 2-3 minutes. Je gratte toujours. Alors, autre cas. Tefillin, et ça c'est un cas, j'ai entendu un cas comme ça qui s'est passé en Israël il n'y a pas longtemps. Tfilin, Shekdavam, Epikoros. Des tfilin qui ont été écrits par un apikoros. Enfin, c'est quoi un apikoros? Alors, un apikoros, c'est quelqu'un qui est, qui est fidèle à Avodah Zara. D'accord? Apikoros. Mouma. Épicurien, oui.
C'est pas comme ça, hein.
Là, dans ce cadre-là, il faut comprendre quelqu'un qui est moumar. D'accord?
C'est un gazole, hein.
Maintenant, ça c'est un premier avis. Il y a d'autres avis qui expliquent que Apikoros, c'est quelqu'un qui ne croit pas aux paroles de nos sages. Et on dit, moi je crois en la Torah, mais il croit pas au Pirushim de nos sages. Donc il y a plusieurs options pour expliquer qu'est-ce que c'est un Apikoros. D'accord? Quoi qu'il en soit, un Apikoros, d'accord? Et aujourd'hui on fait la Khumra de prendre comme le deuxième avis. Ça veut dire quelqu'un qui ne croit pas aux paroles des sages. Quelqu'un qui dit, moi je comprends tout seul, j'ai pas besoin des sages. Isarfou, des tefillin qui ont été écrits par un apikoros, non seulement qu'on n'a pas le droit de les mettre, d'accord, mais on doit les brûler. Même pas les mettre à la gnisa. Pourquoi? Prends les pas à la gnisa, on peut les mettre à la gnisa. D'accord? Alors, Veya Shemri, il y en a qui disent, Iganzu, qu'il faut les mettre à la gnisa. Alors, c'est quoi la marloquette? D'accord? La marloquette, pourquoi il y en a qui disent qu'on doit les brûler? Parce qu'il y a un risque que peut-être quelqu'un va les retrouver à la gnisa et qu'il va réussir à les arranger et qu'il va les mettre. Tellement on veut s'assurer. Que personne ne va les mettre cette filine là. On demande de les brûler.
C'est faire tort.
D'accord.
Aussi,
hein. Alors, faut savoir que en général, quand on a deux avis dans Shouchanahour, c'est-à-dire comme ici, d'accord, on a un premier avis et on a Yesh Omrim. En général, la halakha est toujours comme le premier avis.
Ouais.
D'accord. C'est un Stam et Yesh Omrim, halakha qui est Stam. Donc là, la halakha est considérée comme le premier avis, c'est-à-dire que cette filine là, on les brûle. Et je vous dis, il y a un cas qui s'est passé à Samar Ben Roch, je me rappelle, j'ai entendu comme ça. Une tefilin comme ça, on a découvert comment quelqu'un qui avait écrit les tefilin, on a découvert que c'était quelqu'un qui ne croyait pas du tout aux paroles de Chachamim.
On a un cher chauffeur qui a...
Enfin, on a brûlé cette tefilin. On a brûlé. On doit les brûler séparément. Enfin, on peut pas les mettre à la poubelle, on dit, là, ça sera brûlé. On doit les brûler séparément par respect quand même pour les noms d'Akadosh Baruch qui sont dedans.
Ça, on peut pas les découper ou non.
Mais brûle. Il faut que ce soit irrécupérable. À tel point, on veut être sûr que c'est, on les brûle. Alors. Justement, le Mishnah Boura, il dit que, on aurait pu penser que peut-être, bon, au moins, on enlève le nom de Dieu. On le met à la gnisa. On les brûle avec le nom de Dieu et tout ce que tu veux. Et c'est valable pour un Sefer Torah aussi, hein.
Ouais, Rabbi Akiva,
Rabbi
Akiva, il disait, on doit le jeter au feu, le
Sefer. Est-ce qu'on doit rappeler?
Bien sûr.
Bon. Ceci dit, quand même, on a un premier avis qui dit qu'il y a un apikoros, pour ce cas-là en tout cas, apikoros, c'est une personne qui est fidèle à Avodah Zara. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, il va tous les dimanches à l'église. Alors ça, une personne comme ça, en général, c'est rare qu'il devienne sauveur. Mais il y a un deuxième avis qui dit qu'apikoros, non, apikoros, c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas les paroles des sages. Ça, malheureusement, il y en a un peu plus. D'accord ? Alors, le Mishnah Berurah, il explique, il dit pourquoi c'est très important de croire dans les paroles des sages, puisqu'il y a beaucoup de halakhot des téfilines qui dépendent de choses que les chachamim ont compris de la Torah. Et celui qui n'accepte pas ça, donc on s'imagine que certainement que dans les téfilines qu'il a écrit, il a dû faire des erreurs. Je vous donne un exemple. Il y a un exemple qui s'appelle halakha de Chok Tuchot. Bon, c'est dans le Siman Lamed Bet, on l'a pas fait ça, j'ai sauté la plus grande partie du Siman Lamed Bet, parce que c'était l'halakha d'écriture des téfilines. Mais il y a un exemple qui s'appelle Chok Tuchot. Chok Tuchot, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois qu'une lettre a déjà été écrite, d'accord, et qu'on est déjà passé à la lettre suivante, on n'a plus le droit d'effacer,
on l'avait déjà dit,
d'accord, la lettre d'avant, d'accord, on n'a plus le droit d'effacer la lettre d'avant pour la récupérer. Par exemple, un exemple classique, imaginez-vous par exemple un hé qui a mal été écrit, et que techniquement c'est comme un chet. Il a été écrit comme un chet. Donc on a fini d'écrire les téfilines, et quand on finit d'écrire, on relit, ah, là il y a un hé ici, apparemment avec l'encre, eh ben ça fait un chet. Et donc c'est pas cachère.
Après
c'est
gratuit.
Je vais gratter un peu, c'est rien. C'est assourd. Chot, c'est assourd, c'est chok tuchot. Ça, c'est pas écrit explicitement dans la Torah. C'est quelque chose que les chachamim ont compris. Et c'est quelque chose qu'on doit faire confiance au sofer. Parce que ça, le sofer, si tu le dis pas, c'est impossible de savoir.
Dans le bout de parchemin.
Impossible. Personne te le dira. Il a été gratté. Parce que si le sofer... Non. Voilà. Peut-être, tu vois que c'est gratté, mais il va dire je l'ai fait avant. Or, si celui-là, si cette personne-là ne croit pas par les chachamim, va savoir combien de choses comme ça il va te faire, impossible de savoir.
Et là, comment il s'en sort?
Ben il sort pas. Ça sort pas.
Il y a pas de...
il est mal à Xer, il recommence. Ah, mais les sofrim vous raconteront leur première tefiline, d'accord? La première tefiline, ça arrive plusieurs fois, et ben tu peux rien faire avec. Rien.
Non, c'est pas tout le tefiline.
D'accord?
C'est le parchemin.
Ben oui. Mais attendez, un parchemin. Ça prend au moins un parchemin. Un parchemin pour un sofer qui n'est pas expérimenté, c'est lui prend 5 heures.
Ouais.
C'est-à-dire c'est 5 heures de temps et l'encre et le parchemin, etc., qui vont à la visa.
C'est pour ça qu'ils sont chers les
tunis. D'accord.
Ils se récupèrent.
C'est du temps, c'est beaucoup de temps, les tunis.
Bien sûr.
D'accord. Bon, on s'arrête ici pour aujourd'hui.
Ah ouais.
T'es prêt?